bien, bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous abordons actuellement l'édition du vendredi 2 mars 2018. Pardon, excusez-moi, je vais me réveiller ce matin. Alors, c'est Hélène Bédard qui vous parle, qui va se réveiller. Bonjour Catherine, est avec moi en studio.
Bonjour Hélène.
Catherine Brunet. Et bonjour Mathieu Tessier qui est à la régie.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. On salue Francine Forget, qui est absente aujourd'hui, mais qui nous reviendra vendredi prochain. Alors, aujourd'hui, Catherine Brunet, qu'allez-vous nous parler?
Hélène, je vais vous parler de le magazine Voir, mais cette semaine, j'attaque sans plus tarder, hein, dans quelques minutes, 2018. Donc, il est tout chaud, il est sorti hier. Et en couverture, on a Louise Lecavalier, cette chère danseuse qui est en couverture, donc je vais vous parler d'elle dans un article qui s'appelle « Louise Lecavalier au fil du corps ».
Ouf, ça va être fameusement intéressant, cette femme, on dirait qu'elle vieillit pas.
C'est vrai.
C'est extraordinaire.
Toujours avec une vigueur corporelle incroyable.
Extraordinaire. De mon côté, j'ai quelques textes intéressants, comme un texte sur de Louise Latraverse qui parle de... Parce que j'ai trouvé ça un petit peu après la Saint-Valentin, mais il n'y a pas de sabbatique pour les cœurs brisés. Alors, ensuite, j'ai une étude qui a été faite à Washington sur vieux corps, mais jeune cerveau. Alors, on va lire ça. Et j'ai quelques autres textes là, en réserve. On va voir comment l'émission va se dérouler. On vous revient dans quelques instants. Merci. Tout de suite sauter sur le voir tout chaud de Catherine Brunet. Je te laisse la parole, Catherine.
Merci, Hélène. Alors, Louise Lecavalier, qu'on vient tout juste d'apprendre, qui a 59 ans, mais elle a 40 ans de carrière. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est un article qui s'appelle « Louise Lecavalier au fil du corps ». C'est un article de Marie Paris. Elle a 40 ans de carrière, mais elle n'a pas d'âge. Incontournable figure de la danse contemporaine, la Montréalaise continue de promener sa danse survoltée sur les scènes internationales, portrait d'une artiste flamboyante. Si j'étais un gars, je pourrais danser. Pendant son enfance à Laval, Louise Lecavalier fait plutôt de la course avec ses frères, du vélo ou du baseball. Elle pense qu'en tant que fille, ses chances en danse ne sont pas grandes. Une danseuse doit être belle et romantique. Elle arrive finalement à la danse à l'adolescence, un peu par hasard, après avoir vu une affiche dans un bus. Après, ça s'est passé très vite. Il y a notamment eu LA rencontre, celle avec Édouard Locke, dont elle intègre la compagnie La 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 Human Step. Elle en devient l'icône tandis que la compagnie se fait connaître à l'international et va jusqu'à danser dans les spectacles de David Bowie. En 2006, Louise fonde sa propre compagnie, Fou Glorieux. Sa carrière est jalonnée de nombreux prix et distinctions. Bessie Award, l'insigne d'officier de l'Ordre du Canada, prix de la personnalité chorégraphique de l'année du Syndicat de la critique, grand prix du Conseil des arts de Montréal, prix du gouverneur général pour les arts de spectacle, prix Denis Pelletier, etc. Une carrière qui a inspiré Raymond Saint-Jean. Le réalisateur sort le 30 mars « Louise Lecavalier sur son cheval de feu », un documentaire vibrant qui dresse le portrait de la danseuse de 59 ans. L'initiative fait au début un peu peur à Louise, peu encline à être accompagnée par une caméra pendant un an. Mais j'ai vu le film de Raymond « Une chaise pour un ange » et ça m'a décidée à le rencontrer. La danse y était très bien filmée. Le documentaire suit Louise à Paris, pendant qu'elle y présente un spectacle, puis revient à Montréal pour parler de son enfance, sa carrière, photos d'époque à la pluie. Les entrevues évoquent ensuite ses pièces et le processus de création, une improvisation libre et totale. Et l'équipe du film se rend jusque dans sa maison. La danseuse et la femme sont racontées par ses jumelles, quelques partenaires de danse, dont Marc Bélan, une de mes relations les plus importantes, très particulières, son assistante à la chorégraphie ou encore son entraîneur sportif. Si Louise trouve extrêmement difficile de se voir à l'écran, elle juge le film réussi. Il se tient. C'est pas habituel, pas glamour. Je suis contente que Raymond ait interviewé des gens très près de moi. Ça aurait été facile de prendre un angle plus spectaculaire. Là, il n'y a pas Bowie, ni d'analyse de spécialistes en danse. Avec les entrevues s'alternent de nombreux plans sur les corps, montrant le côté charnel de la discipline, ainsi que des pièces dansées. J'avais dit à Raymond que pour moi, parler n'était pas important dans le film, mais qu'il fallait y mettre le plus de danse possible et qu'elle soit bien filmée, se souvient Louise. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour expliquer quelque chose qui se voit. Et même si les contextes où on filme ne sont jamais aussi bien que la scène, c'est un autre point de vue que sur la danse et c'est pas mauvais. Cette petite blonde au look androgyne et aux cheveux fous, sa coupe courte l'a fait d'ailleurs furieusement rassembler à Bowie, est rapide et pleine d'assurance sur scène, mais plutôt calme et réfléchie en entrevue. Le rire facile. C'est que les mots, ce n'est pas son truc et ça la met un peu mal à l'aise. Je fais le show live, alors j'ai l'habitude de pouvoir améliorer les choses d'un jour à l'autre. Là, les mots, on ne peut plus les changer une fois qu'ils sont dits. C'est difficile pour moi, pas évident de raconter la danse. Mais elle a tout de même accepté les parties de discussion et d'explication dans le documentaire. Les gens ont besoin de comprendre. Finalement, les mots ne démystifient rien. La danse garde quand même sa part de mystère. Même pour moi, il y a une part de mystère. Je m'arrêterai, explique Louise. Pardon, si j'avais tout compris, je m'arrêterai, explique Louise, voilà. Moi, je suis intriguée par les musiciens qui retiennent toutes ces notes. J'essaie de comprendre, mais au bout d'un moment, j'abdique et ça reste de la magie, et j'en suis très contente. Le titre du documentaire « Louise le cavalier sur son cheval de feu », il vient d'Arthur Arch, un ami. Lors d'une entrevue radio de la danseuse faite par le chanteur, que l'équipe du film était venue filmer, il invite spontanément ce qualificatif. Si l'entrevue n'a pas été gardée dans le film, la petite phrase a fait mouche et s'est retrouvée en titre du documentaire. « J'ai trouvé ça beau. Arthur, c'est la poésie en personne », commente Louise. « Je m'imagine souvent que je suis comme une cow-boy dans la ville avec mon vélo comme cheval. Je suis beaucoup dans l'imaginaire western. C'est un thème qui revient souvent dans ma danse. Cette danse, comment la qualifier? Je suis une Espagnole sur un cheval, dans le désert, toute seule. Dans la danse espagnole, le duende. Il y a quelque chose qui me touche. J'aime bien les danses traditionnelles. J'aime beaucoup l'indonésienne, l'africaine, le flamenco. Ces danses, c'est l'essentiel. » Elle se reprend. Sa danse est un moyen de transport. Un transport qui va vite. Louise, c'est quelqu'un qui a deux vitesses, extrêmement vite et très vite, commente un de ses partenaires dans le film. Une danse si précise qu'elle en devient spirituelle, comme une science, avance un autre. J'ai jamais voulu être à la mode, conclut Louise. Aujourd'hui, la danse se veut intellectualisée. Les gens respectent une pensée, mais le mouvement est sous-estimé. À notre époque, on articule beaucoup d'idées, mais la vraie pensée n'est pas souvent là. Dans la danse contemporaine, c'est comme si on essayait de suivre sans disant qu'on n'est pas trop dans le corps. Mais j'embarque pas là-dedans. La danse, l'humain, c'est forcément le corps. Moi, je persiste à vouloir faire de la danse qui est dans le corps, pas dans l'esthétisme du corps, mais dans la vérité du corps, qui est aussi forte que la vérité de la pensée. Danser, c'est une pensée. Louise Le Cavalier a passé quelques années à New York pour se former, mais elle ne le ferait plus aujourd'hui. La ville est devenue trop épuisante, comme Paris. Elle préfère Montréal, particulièrement le quartier du Plateau, au cœur duquel elle a élu domicile. Elle se promène toujours à pied ou à vélo, car elle ne conduit pas et déteste la voiture. Sa place de stationnement, elle l'a transformée en un joli jardin. C'est facile de vivre ici, et il se passe beaucoup de choses en danse à Montréal. Pourquoi aller ailleurs? C'est une très bonne place pour danser. Il y a quelque chose en plus. Tous les danseurs qui viennent ici hallucinent. On dirait que c'est une ville pour les danseurs. Et Montréal honore Louise. L'UQAM lui a décerné cet automne un doctorat honorifique. Et Denis Marlowe et Stéphanie Jasmin sont allés la chercher pour lui proposer de danser dans les Marguerites. Actuellement sur les planches de l'espace Go, le spectacle revient sur la vie de l'auteur Marguerite Puerté. Pour cette première incursion dans une pièce de théâtre, Louise n'a pas hésité. Elle adore le travail des deux metteurs en scène. « J'aime faire des projets pour les autres. C'est un super défi. » Ça me relance autrement pour mes prochaines pièces à moi. Et j'aime aussi bien l'argumentaire dans le livre de Marguerite. Ça me parlait, ça me touchait. Elle est dans le détail des mots comme je suis dans le détail du mouvement. J'aime cette précision, cette délicatesse d'écriture. Et c'est toujours ça que j'ai cherché dans ma danse, la douceur, la finesse. J'essaie de faire une danse fine. Une danse qu'elle travaille depuis plus de 40 ans et qui a vu évoluer au fil de sa carrière, au fil de son corps. La mémoire flanche avec le temps, le corps aussi. Il faut se rappeler du corps de l'enfance de celui qu'on a à 20 ans. Je demandais beaucoup à mon corps sans arrêt et j'ai grandi de ça. Il y a une usure, oui, mais je comprends mieux mon corps. J'ai l'intelligence de mieux me présenter maintenant. À force, je finis par connaître le courant dans le mouvement. Je deviens comme un chat, je me fais moins mal. Louise insiste aussi sur la force du mental, car la danse se passe beaucoup dans la tête. Elle a notamment travaillé pendant 10 ans avec une hanche handicapée. J'ai tellement travaillé en difficulté que j'y ai acquis une énorme force. J'avais déjà de la volonté, mais là je suis allée beaucoup plus loin. Elle se fait finalement opérer, 2 mois plus tard, la voilà déjà dans un avion pour aller danser à Vienne. Et puis il y a eu sa grossesse, l'accouchement, une période qui transforme le corps. Une danseuse enceinte de jumelles, l'enfer. Mais non, ça ne l'a pas inquiétée. Il n'y a pas de pause dans la danse, même quand t'arrêtes. Ce qui m'habite continuait d'avancer en moi, raconte Louise. J'ai pensé longtemps qu'il ne fallait jamais lâcher, mais plus maintenant. Finalement, c'est dans la tête qu'il ne faut pas lâcher. Quand j'étais jeune, je dansais même trop, parfois. J'aurais dansé mieux si j'avais dansé moins. Je m'épuisais dans les répétitions. L'âge, le corps qui vieillit, tout ça ne lui fait pas peur. À 59 ans, elle voit bien des rides et elle se regarde de près dans le miroir, mais à part ça, elle se sent bien, très bien. Danser jusqu'au bout? Je ne dois rien à personne. Si je veux arrêter l'année prochaine, j'arrêterai. Je dois juste fidélité à ce que je vais ressentir à ce moment-là, affirme Louise. Elle ajoute avec un sourire, « Quand j'ai eu mon premier contrat à 18 ans, j'ai dit, « OK, mais je danse juste pour un an. »
Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà.
Thank you. c'était La Bronze et sa chanson « On danse par en dedans ».
Alors nous revoici en studio, Hélène Bédard au micro avec Catherine Brunet. Je vais poursuivre, écoutez, c'était tellement extraordinaire le texte tellement extraordinaire, Madame Louise Lecavalier, mm-hmm. d'abord, le texte vient avec, mais Madame Lecavalier, moi je vais poursuivre d'abord dans les super cerveaux, alors comme on est avec une super femme, on va continuer avec super cerveaux, j'ai trouvé un texte dans Le Devoir, mais ce texte originalement vient de l'Associated Press à Washington de Laureen Neargard, c'est très très récent. Alors, ça s'intitule « Le vieux corps, jeune cerveau ». Mais quel est donc le secret de nos super aînés? Il est extraordinaire de voir des octogénaires et même des nonagénaires avoir la même mémoire que des gens beaucoup plus jeunes. Et les scientifiques peuvent maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur des cerveaux de ces super aînés pour tenter de percer leurs secrets. Ces recherches découlent des tentatives pour le moment décevantes de trouver des nouveaux médicaments pour prévenir et combattre, évidemment, la maladie d'Alzheimer. Au lieu de ça, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre ce qu'on doit faire pour maximiser notre mémoire? Demande donc la neuroscientifique Émilie Rogalski, qui dirige une étude sur les super-aînés à l'Université de Northwestern. Des portions du cerveau rétrécissent avec l'âge, ce qui explique pourquoi la majorité des gens perdent un peu de mémoire en vieillissant, même s'ils évitent des problèmes comme la maladie d'Alzheimer. On sait maintenant que le cerveau des super-aînés rétrécit plus lentement que celui des autres. L'autopsie des premiers super-aînés décédés depuis le début de l'étude montre qu'ils ont nettement plus d'un certain type de cellules nerveuses dans une région reculée du cerveau qui est dédiée à l'attention. Note Mme Rogalski, celle qui fait cette étude actuellement. Ces aînés ne sont pas seulement une curiosité ou une rareté, prévient la neuroscientifique de l'Institut national du vieillissement qui finance, en fait, cette étude. On peut potentiellement en apprendre beaucoup et s'en servir pour aider tout le monde, même ceux qui semblent se diriger vers une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce qui fait qu'on est un super-aîné? Un cerveau jeune dans un corps âgé d'au moins 80 ans. Madame Rogalski a fait passer un test à plus d'un millier de personnes qui croyaient se qualifier. Fort intéressant, écoutez bien. Mais seulement 5% d'entre elles, sur le millier, ont été retenues. Le principal test était ceci, c'est fort simple. Il consistait à écouter l'énumération de 15 mots, sans lien entre eux. Et 30 minutes plus tard, on leur demandait d'en réciter 9. Seulement 9. C'est la norme pour un quinquagénaire. Mais l'octogénaire, lui, moyen, n'en retient que 5. Bien, évidemment, les super-aînés les ont tous nommés. Ferez le test. C'est la norme. Pardon. Quel est le facteur responsable? Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. M. William Gurulnik, qui aura bientôt 87 ans et qui participe à l'étude depuis 2 ans. Il ne peut pas non plus attribuer tout ça à son code génétique. Son père a souffert de la maladie d'Alzheimer avant 60 ans. Non, il croit plutôt que son agenda chargé est responsable de sa mémoire exceptionnelle. Il fait du vélo, il joue au tennis, il joue au volleyball aquatique, il fréquente des amis, il s'implique auprès d'une association d'hommes dont il est le fondateur. Je pense absolument que c'est un facteur critique pour garder toute sa tête, a-t-il dit au lendemain de sa partie de carte mensuelle. Ça aussi, ça fait partie de... Les super-aînés de Mme Rogalski sont habituellement des gens extrovertis, qui disposent d'un réseau social robuste. Ils proviennent autrement de toutes les sphères de la société, ce qui complique l'identification d'un facteur unique pour expliquer le cerveau remarquable. Donc, il n'y a pas de facteur unique. Certains sont allés à l'université, d'autres pas. Certains ont un QI élevé, d'autres très moyen. Mme Rogalski compte parmi ses participants des gens qui ont eu des traumatismes indescriptibles. Notamment, elle a des gens, dans son étude, qui sont des survivants de l'Holocauste. Il y en a qui sont des fanatiques de la santé. Il y en a qui sont fumeurs. Il y en a qui ne consomment aucun alcool. Puis il y en a d'autres qui prennent un martini tous les soirs. Donc, il n'y a pas vraiment de piste unique. Mais c'est au plus profond du cerveau qu'elle découvre des signes qui démontrent que les super-aînés semblent mieux résister que les autres aux assauts du temps. Elle a découvert qu'ils ont un cortex plus épais. Les premiers examens ont révélé que le cortex du supraaîné, une couche extérieure du cerveau essentielle à la mémoire, est plus épais que la normale pour leur âge. Ils ressemblent davantage au cortex en santé de quinquagénaire et de sexagénaire. On ne sait pas si les supraaînés sont nés comme ça, mais Mme Rogalski et son équipe ont trouvé une explication possible. Ce cortex des supraaînés rétrécit plus doucement. Sur une période de 18 mois, l'octogénaire moyen perd deux fois plus de cortex. Un autre indice, le creux dans le cerveau. Une région importante pour l'attention est aussi plus costaude. Des autopsies ont révélé que cette région regorge de neurones de von Economo. C'est un type de cellule nerveuse encore mal compris, mais qui jouerait un rôle dans le traitement social et la conscience de l'environnement. Les supraaînés disposaient de 4 à 5 fois de plus de ces neurones que l'octogénaire moyen. Mme Rogalski a trouvé différents signes de la maladie d'Alzheimer dans les cerveaux de ces supraaînés. Les chercheurs veulent maintenant savoir comment ces aînés ont échappé aux ravages de cette maladie. Ils vivent longtemps et bien. Et est-ce qu'il y aurait des choses modifiables qu'on pourrait identifier aujourd'hui dans notre vie de tous les jours pour faire de même? C'est un dossier qui est à suivre.
Évidemment, c'était The Beatles. Drive my car.
J'ai plaisir de réentendre ça. Merci, Mathieu.
Ouais, on n'en fait pas jouer souvent.
Non, c'est très agréable. Alors, nous sommes de retour. Voilà. J'ai un court texte que j'ai trouvé dans la revue. Juste un moment que je trouve le nom de ma revue. C'est Les Belles Années. C'est un nouveau journal que j'ai trouvé pour les aînés. C'est Vivre aujourd'hui. Alors, il y a un article sur un véritable anti-stress. Imaginez donc que colorier est un anti-stress. Mm. Le coloriage a fait son entrée dans le monde des adultes. Eh oui, et les cahiers de coloriage magnifiquement illustrés sont légion. Le type de coloriage n'est pas enfantin. Il est plutôt perçu comme une invitation à lâcher prise, s'accorder du temps pour soi, se recentrer. Comme cette activité fait appel à la concentration et à la créativité, elle s'inscrit dans une démarche visant le bien-être, s'inspirant de l'art spirituel ancien des mandalas qui, à l'origine, servait d'outil de méditation. À défaut d'être thérapeutique, le coloriage fait du bien. C'est un mode d'expression qui possède en effet de nombreuses vertus. Il diminue le stress, il réduit l'anxiété, il aide la personne qui le pratique à être dans le moment présent, une façon toute simple de suspendre le temps, de méditer. Peu importe l'âge, tous peuvent se permettre de colorier et en tirer profit, d'autant plus qu'il s'agit d'un loisir plus coûteux. Outre ses propriétés anti-stress, il aide à conserver une bonne mobilité des membres supérieurs et favorise une expression artistique. En prime, on peut s'y adonner n'importe quand et y travailler au rythme qui nous convient. On s'installe dans une pièce calme, on dépose notre cahier sur une surface dégagée, on laisse l'inspiration venir. On se rappelle que ce moment nous appartient, qu'il n'y a aucune limite de temps à respecter. Comme pour un casse-tête, on reprend là où on l'a laissé. On choisit un cahier à colorier ou dont les dessins ou les mandalas nous plaisent, des crayons à mine de qualité ou des feutres à pointe fine. Et voilà, ce que nos coloriages révèlent, ça révèle nos états d'esprit, tout simplement, qui se dévoilent par nos choix de couleurs. Alors voilà, c'était un article fort amusant sur les belles années. Et allez-y, allez à vos crayons et vos papiers. D'ici là, nous vous laissons pour une pause. Nous vous retrouvons. Ne nous quittez pas surtout. Nous vous revenons après la pause. Merci.
Oh,
C'est exact, c'est bien Alt J qui nous chantait Warm Foothills.
Et bien voilà, nous sommes de retour et nous allons poursuivre nos lectures avec Catherine Brunet.
Oui, merci Hélène. Donc, j'y vais de ce pas avec une chronique. J'essaie d'alterner contenu artistique et chronique, toujours dans le voir. On est au mois de mars, c'est la nouvelle édition qui est sortie hier, donc c'est très récent. C'est la chronique d'Émilie Dubreuil, Le temps pour sortir. Sa chronique, ce mois-ci, ce titre, Le prince charmant est un camion. La voix de Baryton de Dan Birgra s'élance dans toute sa virilité. Le Dodge Ram, le courage, la légende. Et ça me fait rire chaque fois d'une sorte de perplexité amusée. Le camion courageux, sans peur et sans reproche, est sans doute la représentation la plus positive de la masculinité que je vais voir ce soir. Tout de suite après vient une annonce d'un restaurant où un homme se fait dicter ce qu'il va manger par sa blonde castatrice. Et comme un bonnet un peu lourd, il regarde la caméra et dit « Je fais toujours ce qu'elle veut ». Tiens, le téléroman peut commencer. C'est l'histoire d'une fille névrosée qui lâche son mari pour un gars pas fiable qui a une boutique de tatouages. Il est beau, il fait des tatous, mais est-ce que je l'ai dit? Il n'est pas fiable. Il ne sait pas trop ce qu'il veut et a peur de l'engagement. On est loin du camion courageux. Mettons qu'entre Uber et un Dodge Ram, je n'hésiterai pas trop longtemps. En parlant d'homme, le mien est parti en voyage quelques semaines et je m'ennuie. De lui, bien sûr, mais je m'ennuie surtout tout court. Dans notre pays de neige qui a neigé et d'avertissements de pluie verglaçante et de tempête hivernale, je prends très au sérieux les avertissements d'urgence santé de ne pas aller me péter la gueule sur les trottoirs glacés de ma ville. Et puisque j'ai horreur de me battre contre le monstre du froid éolien, j'abdique et je contemple ma télé. Et je suis étonnée parce que j'y vois. Un mâle perdant, perdu, mou, ou torturé, ou pas fin ou maladroit. Bref, sauf rare exception, il n'y a aucun personnage de mâle dans notre production téléromanesque qui m'inspire de pensées impures. Toujours prompte à discuter de l'état de notre inconscient collectif magané, j'ai téléphoné à une copine sociologue pour échanger sur nos bébites nationales. Elle m'a coupé la parole à représentation négative des hommes dans notre fiction. Émilie, c'est complètement ringard ce sujet. Ce débat appartient aux années 1990 et à l'époque d'Olivia Pronovo et de ses contemporains, les Jean-Paul Belot et autres pendants paradigmatiques. Enjeu, l'émission Enjeu qui a disparu il y a trop longtemps, avait fait un reportage, tu te souviens? Luc Picard qui venait de faire Noom dans l'ombre de l'épervier nous disait qu'il y en avait assez de jouer des hommes sans colonne. Ben ça, c'est terminé. Ok, alors, nomme-moi, ma chérie, un seul personnage mâle inspirant dans notre fiction actuelle et que tu aurais, mettons, envie de fréquenter. Ben, il y a les gars de 19-2. Santé mentale fragile. Il y a le capitaine dans District 31, c'est un bon gars. Oui, mais c'est un mon oncle. Le reste de sa gang, on peut pas dire que ce sont des modèles de camions Dodge Ram. Courage et légende. Et disons-le, dans les dernières années, les gars, mettons dans les Invincibles, inspiraient pas tellement l'amour. D'éternels adolescents, ineptes et perdus. Que dire des gars dans CA, incapables de s'engager ou complètement dominés par une germaine maléfique. Mais tu vois, moi, c'est pas tant la représentation des gars que je trouve angoissante, mais la représentation des femmes de notre génération. Elles sont toujours au bord de la crise de nerfs. C'est comme un long, long film d'Almodovar remixé à la sauce Sex and the City. Les filles sont toutes complètement névrosées. Il y a un téléroman que je voudrais écouter, mais j'ai lâché au deuxième épisode parce que les femmes crient tout le temps, pleurent ou se saoulent. Si certains ont vécu une enfance à l'eau bénite, je suis de cette génération qui a grandi à l'ombre de l'écran cathodique. Les séries les plus marquantes de mon histoire avec la télé sont sans doute celles que j'ai regardées enfant. L'Ancien Comte et les filles de Caleb constituent encore pour moi les références culturelles incontournables. Alors, viens que je te résume ça, ma chère amie sociologue. Pierre Lambert, le courage, la légende ont été remplacés de nos jours par un camion et Émilie Bordelot est devenue une femme dans la trentaine en burn-out qui ne rencontre pas l'amour et qui a des parents très névrosés et qui boit beaucoup trop de vin blanc ou déménage avec des colocataires pour mettre du piquant dans son existence complètement chaotique. Ce que je n'aime pas avec vous, les journalistes, c'est que vous avez tendance à ne pas faire de nuances pour que votre explication de choses complexes soit plus percutante. Ça se peut bien, mais n'empêche. Si j'interroge ma télé et que je lui demande « Miroir, miroir, dis-moi ce que nous sommes devenus », ma télé me dit quelque chose qui m'énerve pas mal. Car je comprends bien, elle veut me dire que les hommes sont désemparés devant les changements sociaux, notamment par les résultats concrets du féminisme. Ils ont la difficulté à trouver leur place dans la société où sont dominés et donc victimes de leur femme castrante. Elle me suggère aussi clairement que la liberté de la femme vient avec une surdose d'hystérie pour femmes libres. Et, tu sais, c'est pas toujours facile. J'ai téléphoné à Stéphanie Boisvert, une chercheuse de l'UQAM, spécialiste de la représentation des genres à la télé, qui m'a confirmé cette intuition. C'est une vision répandue dans la société et donc dans notre fiction que cette émancipation des femmes rend tout le monde malheureux. On était plus heureux avant, quand c'était plus simple. Ouais. C'est vrai que Rosanna, dans le temps d'une paix, n'était pas hystérique et que Joseph Arthur était vachement sympathique. Bon. Il est temps que mon homme revienne et que le printemps se pointe. Il faut que je sorte de mon divan et que j'arrête de faire de la gérance d'estrade à 5 sous sur notre inconscient collectif qui valorise plus les camions que les hommes.
Le maire m'a dit que ton cœur est brisé en morceaux, qu'il n'est plus capable d'aimer. Mais moi, mon cœur est en lambeaux. Est-ce que le maire t'a dit que l'amour ne vient pas quand on veut, qu'il arrive le jour où on est fendu en deux, le rouge sur les épaules? Je te raconterai l'histoire de la mort des amoureux. Le maire est parti subitement, a laissé ses enfants, un chandail sur la table, un brigand de 4 ans. J'ai perdu tes vêtements. Près de l'arbre où j'ai compté les bourgeons, où j'ai crié ton prénom, j'ai planté une arête dans la ville en bouillon. Plancher de chaudron. Mais ce soir, je te raconterai l'histoire de la mort des amoureux.
C'était Philémon Simon et sa chanson « La mort des amoureux ».
Quelle belle tendresse et quelle belle suite je vais y donner. J'ai un très beau texte ici de Louise Latraverse et pas de sabbatique pour les cœurs brisés. Les poètes savent parler d'amour. Leur âme, plus sensible que les autres, leur donne le privilège de se glisser doucement dans nos cœurs. Ils connaissent les passages souterrains où logent les mots de Tristan et de Roméo. C'était la Saint-Valentin, et peu de temps. Plusieurs fêtaient au champagne et au chocolat dans des draps de satin. Et ce matin, ça pleure dans les chaumières. Tout autour de moi, des couples se séparent, se déchirent, se reprennent, réessaient. Certains cassent tout et partent sans prévenir. D'autres s'écroulent, des enfants attendent en silence. Pas de sabbatique pour les cœurs brisés. J'assiste impuissante à cette hécatombe. Qu'est-ce qui est arrivé au couple? Il me semble que la situation s'est envenimée. On est loin des vœux de mariage de nos parents. Ensemble pour le meilleur et pour le pire, disait-on. On ne supporte plus le pire depuis longtemps. La patience est éclipsée, remplacée par la satisfaction du désir immédiat. Ce qui a marché ne semble plus fonctionner. Difficile d'aimer. J'ai passé toute une vie à essayer. J'ai beaucoup aimé. Pas toujours la même personne. Est-ce la fin du monde que de ne pas être le couple parfait s'aimant jusqu'au salon funéraire? Qui a donc décrété que la traversée des décennies était la seule façon d'aimer? On a essayé de faire les choses différemment. Il y en a eu des révolutions socioculturelles, une après l'autre. De mon temps, il y a eu les hippies, qui vivaient tous dans la même grande maison. Il y a eu le féminisme. On a brûlé nos soutiens-gorge, on a pris les pilules, on faisait l'amour du matin au soir, sans préservatif, en avalant des petites pilules roses qui venaient de San Francisco et qui nous mettaient de bonne humeur. Ces révolutions n'étaient pas les cours de préparation au mariage le mieux adaptés au projet de vie à deux. Heureux pour le reste de nos jours dans une belle maison avec deux télés, deux ordi, deux iPhones, deux chars. La vie de rêve des magazines de Facebook et d'Instagram. Et la réalité. Le mariage a évolué, on a retrouvé de belles petites familles recomposées avec des enfants qui ont tous le bonheur de prendre du Ritalin pour des troubles d'inattention, des parents chez les psys pour essayer de comprendre leurs enfants turbulents, tout en entreprenant une thérapie de couple pour comprendre son conjoint. Pour plusieurs, le modèle est périmé et on n'a pas encore pris le temps d'en réinventer un autre mieux ajusté à nos besoins. Tout va trop vite, on veut tout, tout de suite. En attendant la nouvelle révolution, on peut s'attarder à aimer, tout simplement, sans trop se préoccuper des vieux modèles. S'aimer soi-même, parce que personne ne peut le faire à notre place. Être heureux est le premier de nos devoirs dans l'existence. On ne demande pas à d'autres de remplir ce contrat. Ce serait un peu lâche et facile, se déresponsabiliser de ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. S'il faut apprendre à vivre seul, c'est aussi pour se connaître. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. On est bien obligé d'abandonner ce rêve impossible. Croire que quelqu'un viendra nous sauver et nous prendre en charge. Pour toujours, j'ai des petites nouvelles pour vous. Il ne viendra pas, le prince charmant. Il habite dans les livres, avec sa princesse. Se construire en développant ses talents, pour ensuite faire un bout de chemin avec un amour, sans la pression de cette image d'épinal. Le cœur humain est assez grand pour aimer plus d'une personne dans la vie. Si notre cœur est ouvert à l'amour et non à la vengeance, nous continuerons d'aimer. Je vis seule depuis un bon moment. Ma liberté a de grandes qualités, des failles aussi. J'aime de plus en plus et de mieux en mieux. Je m'émerveille encore de tout. Et l'être humain, dans sa splendeur et ses misères, m'émeut chaque jour un peu plus. Je pleure aussi devant ses souffrances et ses exigences. Il n'y a pas de fin à l'amour. Il n'y a que les limites que l'on s'impose. Goethe disait que tout ce qui est sage a déjà été pensé. Il faudrait juste essayer de le penser encore une fois. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place en congé d'une vie. Texte de Louise Latraverse de Après la Saint-Valentin.
Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux. Si la vérité sort de nos yeux, nous jouerons les imbéciles heureux, exhibant nos rêves faussement pieux sur l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos caresses pour que, quand le temps nous blesse, nous puissions combler tous les deux de nos corps l'appétit copieux. De ciel, j'ai massacré ton cœur de miel. Depuis que nous sommes tous les deux sur l'étrange route des amoureux, la vérité a brûlé nos yeux. C'est l'insolence des moments heureux. On se sent tout à coup bien trop vieux pour l'étrange route des amoureux. Mais gardons nos promesses, puisque quand la vie nous blesse, nous devons combler tous les deux de nos espoirs l'appétit copieux. Je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux.
Pierre Lapointe, l'étrange route des amoureux.
Merci beaucoup Mathieu. Alors nous allons poursuivre la lecture avec Catherine Brunet.
Oui, merci Hélène. Donc, toujours dans le voir, l'orchestre comme instrument, c'est un article d'Alexandra Riano. En décembre dernier, danseurs et spectateurs ont été agréablement surpris de voir une femme à la tête de l'orchestre du spectacle Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens. Dina Gilbert a dirigé l'œuvre de Tchaïkovski, une quasi-première au sein de la compagnie. Entretien avec une jeune chef qui est en train de se tailler une place de choix au sein de l'univers classique. Dina Gilbert a remporté le prix Découverte de l'année lors du 21e Gala des Prix Opus en février dernier. Une distinction que Yannick Nézette Séguin a également reçue en début de sa carrière. Chef assistante de Kent Nagano à l'Orchestre symphonique de Montréal pendant 3 ans, la jeune trentenaire est déjà reconnue pour son énergie et son geste assuré. Aujourd'hui directrice musicale de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski et de la Kamloops Symphonie en Colombie-Britannique, elle continue de diriger l'orchestre de chambre l'ensemble Arkea qu'elle a fondé à Montréal il y a un peu plus de 6 ans. Ce que je constate comme important dans une programmation, c'est d'y inclure de la musique d'aujourd'hui, des compositrices et des compositeurs canadiens. J'essaie aussi de programmer l'œuvre de femmes compositrices parce que s'il y a un problème de représentativité dans la profession de chef d'orchestre, celui qui existe en composition est encore plus grand. Il est difficile de passer outre la notion de parité en discutant de musique classique avec une femme qui s'illustre dans un milieu qui a longtemps été celui des hommes. La sœur de Mozart était très brillante. On reconnaissait le talent des femmes à l'époque, mais pas qu'elle passe à la postérité. Bien que les auditions à l'aveugle aient changé la donne pour les musiciens, certaines chefs d'orchestre n'ont pas encore la chance d'éviter les biais inconscients des directeurs d'orchestre ou des conseils d'administration. On est de plus en plus de femmes chefs d'orchestre. En classe, au doctorat, on était 3 femmes pour 2 hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'intérêt que le métier, ni parce que le public ou les musiciens ne sont pas prêts à nous voir diriger. Le plafond de verre ne s'est pourtant pas érigé au-dessus de celle pour qui cette profession semblait destinée. Dina Gilbert a grandi à Saint-Georges-de-Beauce, en baignant dans l'univers de la musique, sans pour autant avoir un orchestre local duquel s'inspirer afin de poursuivre le métier qui est aujourd'hui le sien. On était 6 filles et mes parents considéraient que c'était important de jouer du piano et de chanter. À l'adolescence, elle dirige déjà le chœur d'enfants de l'église locale, puis elle répète l'expérience lors de son passage dans les cadets de l'air auprès de 45 musiciens élites du Québec qu'elle accompagne en tournée estivale pendant 9 semaines. Elle admet en riant n'avoir retenu que certains principes de survie en forêt. Cette étape représente cependant, sans qu'elle le sache à l'époque, une étape marquante qui l'amènera vers la profession. Être chef d'orchestre, c'était pour moi l'équivalent d'être astronaute. C'est un métier que je connaissais, mais j'ignorais le chemin qu'il fallait prendre pour l'exercer. C'est le professeur et chef d'orchestre Paolo Bellomia qui a remarqué son talent dans une classe optionnelle au baccalauréat. C'est ce même professeur qui l'a accompagné pour sa préparation à l'audition de la maîtrise. À la seconde près où on m'a accepté dans le programme, j'ai réalisé que toutes ces étapes avaient eu leur raison d'être. Je me sentais musicienne, sans nécessairement être interpellée par une carrière de pianiste ou de clarinettiste. Quand la direction d'orchestre s'est présentée à moi, je me suis dit, hors de tout doute, que je ne pouvais faire que ça. C'est un métier qui me nourrit, qui me fascine, qui stimule constamment ma curiosité et ma volonté d'en apprendre plus. Et je me suis dirigée vers ce métier. C'est vraiment grâce à Paolo Bellomia et Jean-François Rivet qui m'ont enseigné à l'Université de Montréal. L'importance de la communauté revient continuellement dans son discours lorsqu'elle parle des mentors qui l'ont inspirée et de son rôle en tant que directrice musicale ou chef d'orchestre. Comment la nourrir? Comment la faire vibrer différemment avec la musique? Lors des concerts présentés récemment à Kamploops, j'ai invité un membre du public à venir diriger la pièce de rappel. Pendant un concert aux États-Unis, j'ai invité 10 spectateurs à s'asseoir au sein de l'orchestre. Évidemment, les musiciens doivent être à l'aise de se prêter au jeu. Ce sont des choses simples qui ont eu un impact direct sur le public. J'aime beaucoup jouer là-dessus. Cela explique sans doute son intérêt et sa facilité à diriger des œuvres très classiques, au même titre que des concerts qui bousculent la forme et le fond du domaine. Dina Gilbert faisait récemment ses débuts avec l'Orchestre philanthropique de Radio France dans un programme hip-hop symphonique auprès des artistes IAM et MC Solar. De retour au Québec, elle a dirigé la musique du compositeur John Corigliano lors de la première mondiale de la présentation avec orchestre du film Le Violon Rouge. À l'étranger, on l'a invité à diriger des orchestres aux États-Unis, en Chine, en Roumanie et en Estonie. Cette vie qui a fait voyager, la maestra l'aime déjà. C'est cependant de voir ces orchestres gagner en reconnaissance qui représente à ses yeux le plus important gage de succès pour les années à venir. Quant aux projets qui se présenteront à elle, si le concert a une valeur artistique et qu'il peut toucher les gens, elle ira de l'avant. Alors voilà, c'était un portrait de Dina Gilbert dans Le Voir par Alexandra Rigano.
Il existe près des Écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture. Ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire. On danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour, que c'est demain. On revient d'une seule traite gaie, sans un sou vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume du cru. Je l'ai conduit dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer. Elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fan. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Comme c'est dur de couper une chanson. C'était Monique Lérac et sa chanson L'étrangère.
Eh bien, nous allons vous faire un très court message. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été à notre écoute. Merci, chère collaboratrice. Merci, Catherine Brunier.
Merci, Hélène.
Merci, Mathieu Tessier.
Bon, ça fait plaisir.
Et puis, nous espérons tous vous retrouver vendredi prochain, à la même heure,
Les Voix de Service Magazine à 9h. Merci beaucoup et au plaisir.